Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Oui, ça y est.
Bon bouton, c'est... Bienvenue, l'actualité économique du jour. La loi contre l'ultra fast fashion a été votée à l'Assemblée nationale. C'est très flou, hein. Il n'y a absolument pas de mode d'emploi. Maintenant, il va falloir écrire des décrets pour essayer de mettre ça en musique. On n'a même pas pris le temps de définir ce qu'était vraiment cette mode éphémère. C'est très français comme texte, hein. On arrive... Percu de bonnes intentions, la main sur le cœur, vive la planète, c'est de l'émotion, et puis on aboutit à des taxes, à des interdictions. Enfin, à côté de ça, moi je suis assez partagé, on va en parler. La croissance, c'est pour quand? Les chiffres de l'INSEE publiés hier, parlons net, hein, si on veut réussir le 1% de croissance de Bercy, il faut faire 0,7% de croissance au troisième trimestre. 0,7% de croissance au quatrième trimestre. Autant dire que ça sent à plein nez les milliards supplémentaires qu'il va falloir économiser au-delà des 10 qui ont été inscrits dans le premier décret qui a été publié. Et l'INSEE observe quand même que les taux de la BCE commencent à être un vrai, sérieux problème. Le Conseil d'État impose d'inscrire dans le Code du travail le droit à des congés payés en cas d'arrêt maladie. Le patronat est satisfait. Comment se fait-il? Vous allez savoir pourquoi. Et puis on va réagir à cette décision du Parlement européen, de quoi je me mêle, on a envie de dire. Il décide de valider le fait que les élevages de porcs et de volailles sont des industries, donc entrent dans la classification industrie. Ce qui veut dire que c'est toute une montagne de normes supplémentaires qu'il va falloir appliquer, ça coûte de l'argent. Une petite ferme familiale est donc concernée. Voilà. Et bien voilà typiquement le genre de décision qui participe à faire détester l'Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale chez Odile Jacob et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho. Comment on ressuscite la productivité? C'est une sacrée bonne question ça Jean-Marc.
Ah, c'est la une question du... essentielle. Hein.
Et parce que personne n'a la réponse absolue.
Non pas du tout, je rappelle régulièrement sur ce plateau qu'il y avait un groupe de travail qui était présidé par le regretté Philippe Martin sur la productivité et la conclusion ultime c'était l'évolution de la productivité est un mystère.
Ben oui.
On avait réuni les meilleurs experts, des auditions de Grand Prix Nobel et tout ça, et personne n'arrive à savoir ce qui se passe. D'ailleurs, l'INSEE se pose la question de savoir si ce n'est pas un problème d'outils, d'instruments de mesure,
plutôt qu'un problème
de réalité de terrain.
Heureusement que vous êtes là, parce que donc, quelque part, on a la réponse là.
Mais absolument, voilà. Donc il faut absolument acheter pour l'écho.
Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste bonjour. Aux Échos. On parlera tout à l'heure du Bitcoin, parce que vous avez signé une tribune dans les Échos cette semaine. Dingo ou bingo? Point d'interrogation, vous me direz dans quel camp vous êtes. Bonjour Laurent Vronsky.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue, qui va devoir donc accorder des congés payés à des salariés qui sont arrêtés pour maladies non professionnelles. La loi contre l'ultra fast fashion. Alors je suis assez partagé, on en a débattu Jean-Marc hein, ici. C'est que, bon, évidemment c'est une loi liberticide, s'il y a de la fast fashion, c'est qu'il y a des gens pour en acheter. Donc voilà. C'est évident que si on met une taxe, celui qui paye à l'arrivée, c'est le consommateur. Donc, c'est une loi inflationniste, une loi liberticide. Là encore, on a envie de dire quoi je me mêle. Et à côté de ça, bon, moi, je ne suis pas un grand malade de la fièvre acheteuse. Je n'achète pas grand-chose. Et c'est vrai que l'idée d'aller se payer des fringues en polyester à 3,50€ qui traversent la planète, par un moment, on se dit, ça, on marche un peu sur la tête. Parce que qui peut imaginer qu'un vêtement, ça coûte 3€ ou 4€ et que tout ça est parfaitement sain et normal. Vous avez écrit là-dessus, Jean-Marc, ce matin.
Oui.
Message. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai dit, c'est une loi très française.
Ah bah évidemment.
Hein. Ah oui.
On a un problème. On fait une loi. On fait comme vous l'avez dit. Hein, donc une taxe, des interdictions, des seuils. Hein, on va voir en fait. La taxe revient à mettre un prix plancher. Hein. On en a, je pense que sur l'agriculture, c'est un certain nombre de gens qui sont d'accord sur le fait que c'est pas évident de mettre un prix plancher. Bah, je pense que sur les habits, c'est pareil. Et puis c'est un plafond puisque selon le nombre de références qu'on fait par jour, par semaine, par an, on aura le droit ou pas le droit d'échapper ou non à cette taxe. Enfin, donc on passe son temps à dire que la France tout est trop compliqué. Et là, on rajoute. un certain nombre de complexités. On n'a pas, il faudra attendre les décrets d'application pour voir combien il y a de complexités, mais à l'évidence, hein, on rajoute encore 3 ou 4 dimensions à un machin qu'on a déjà beaucoup trop. Donc voilà, démarche très française. Derrière, évidemment, un vrai problème, hein, vous l'avez dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est utile à la planète, est-ce que c'est utile à chacun et chacune d'entre nous d'acheter des dizaines d'habits pour quelques euros, dont certains ne seront jamais portés, seront jetés, mais ensuite ils sont de tellement mauvaise qualité que c'est même pas recyclable.
Je vais aller voir ce qu'on y trouve sur cette chaîne, c'est quand même époustouflant.
La réponse est un peu, n'est pas évidente. Mais ensuite, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que là-dessus, en France, on dénonce facilement une politique de l'offre. Hein. C'est scandaleux, on fait que de la politique de l'offre, c'est catastrophique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une politique de l'offre sans voir la politique de la demande. Et moi, je pense qu'il faut même un peu penser à la demande. Je pense que cette offre n'existerait pas si elle ne trouvait pas une demande en face.
Il n'y a pas de client, il n'y aura pas de client.
Et il faut un peu travailler là-dessus. Et ça, c'est totalement hors champ. Moi, je suis de plus en plus convaincu que c'est l'un des enjeux essentiels de la transition écologique énergétique. C'est travailler sur la demande. Derrière, ça veut dire travailler sur l'imaginaire, parce que c'est pas par hasard qu'il y a des gens qui ont envie d'acheter. Ça correspond à des façons de penser, à des représentations du monde. Et il va falloir travailler là-dessus. Alors évidemment, c'est plus compliqué que de prendre une loi qui met des taxes, des interdictions, des plafonds, des planchers. Mais si on veut vraiment avancer là-dessus, je pense qu'il faudra aussi songer à ce côté-là.
Oui, enfin, le côté éduquer les consommateurs, j'y ai jamais vraiment cru.
Vous avez bien vu que pour la cigarette, il a fallu tout de même matraquer. Hein. Il n'a pas suffi de doubler, tripler le prix. Mmh. Il a fallu le multiplier par 7 ou 8 pour arriver à commencer à dissuader vraiment les fumeurs.
C'est un bon exemple de changement de comportement qui s'est inscrit à jamais. Ça, c'est faut reconnaître.
Oui, mais avec. Là, ça voudrait dire mettre la taxe minimale à 50 euros. Enfin,
Alors, le principe de la taxe, c'est de mettre 10 euros max, mais de toute façon, de limiter le montant de cette taxe, ce malus, à 50% du prix du bien. Un bien qui est vendu 2 euros, il pourrait.
Mais ça veut dire aussi derrière qu'il y a des hypothèses derrière qui sont très contestables. Ça suppose, en gros, que quand c'est 10 fois plus cher, c'est 10 fois plus solide.
Oui, en plus, c'est vrai. Alors,
dans certains cas, il y a des choses qui sont 10 fois plus chères, qui sont 10 fois plus solides, voire 20 fois plus solides. Moi, j'ai expérimenté à ma grande surprise avec des chaussures. Mais dans beaucoup de cas, quand c'est 10 fois plus cher, c'est pas 10 fois plus solide.
Et puis, il y a un petit relent un peu protectionniste quand même dans ce texte. Oui, au début, on voulait, sans le dire, on ciblait Chine, Temu, Alibaba, des Chinois, quoi. Et puis on se rend compte qu'on sait pas vraiment où est-ce que le curseur va se poser. Et si ça se trouve, des bonnes vieilles maisons, bien de chez nous, bien installées, avec des bonnes boutiques qui payent des bons impôts sur le territoire, risquent de tomber dans le champ de ce texte, comme Décathlon, par exemple, sait-on jamais. Ça va être l'enfer d'écrire les décrets, et quand on va lire les décrets, ça va nous rappeler les grandes heures du confinement, sans doute. Jean-Marc, réaction
oui,
sur
l'ultra-fast fashion. Je crois que mettre mot dans tout ça, par-delà, l'écologie, la politique de l'offre de la demande, c'est protectionniste. C'est le protectionnisme. D'ailleurs, Anne-Cécile Violante, qui est à l'origine de cette version actuelle du texte. La députée Horizon, elle a rédigé l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, je me permets de relire ce que j'ai dit d'ailleurs hier ou avant-hier dans le cadre de notre débat de la matinale. Elle explique, c'est dans l'exposé des motifs, au-delà de l'impact écologique de la mesure, celle-ci permettra d'assurer une concurrence plus équitable pour le secteur textile français et européen et de relocaliser de nombreuses industries. Donc c'est typiquement du protectionnisme, une recherche d'une action protectionniste. Et alors, je trouve ça assez déprimant de voir que ce pays n'arrive pas à se défaire de... À titre personnel, je préside la Société d'économie politique qui a été créée en 1842, avec dans ses statuts qu'elle se dissoudrait le jour où la France serait libre-échangiste.
C'est pas vrai.
Et donc, je suis président de cette société.
Président
donc,
à vie.
La SEP a été construite sur l'héritage intellectuel de Jean-Baptiste Say. Dans les statuts, il est
inscrit que normalement, le but de la société, c'est de promouvoir le libre-échange et qu'elle se dissoudra le jour où le libre-échange sera en vigueur en France.
Il a bien été, il a été davantage peut-être à d'autres moments, le libre-échange en vigueur.
Bon et juste dernier élément pour les éléments historiques. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Jean Monnet. Donc Jean Monnet est mort le 16 mars et Jean Monnet, quand dans ses mémoires qu'on vient de rééditer, il dit à la fin, le seul acte véritablement important auquel j'ai tenu dans ma vie, c'est que lorsque je suis arrivé au commissariat au plan, j'étais dans le bureau historique de Jules Méline. Jules Méline, c'est le ministre de l'Agriculture qui avait rétabli les droits de douane et il y avait son portrait dans le bureau. Et donc j'ai demandé à l'assesseur qui était là de mettre le portrait à la cave. Et donc c'était un geste fort. Simplement l'assesseur lui a dit, vous savez, on se débarrasse pas d'un portrait comme ça. Et donc Jean Monnet dit, on s'est pas débarrassé du portrait. Je ne sais pas si on s'en débarrasse, mais on s'est pas débarrassé de l'esprit de Jules Méline. Et ça continue, on ne s'est pas débarrassé de l'esprit de Jules Méline. Donc je trouve ça pathétique.
Donc longue vie à la société d'économie politique.
Hélas.
Surtout, Jean-Marc Vittori, si vous voulez dire un mot là-dessus.
Surtout Laurent. Longue vie à Jean-Marc Daniel, parce que là, tel que c'est parti, on va bientôt l'embaumer, parce que c'est pas de ma réveille. Hein.
Jean-Marc Vittori, oui.
Non, juste un mot. Donc la loi vise à la réindustrialisation, vous avez lu les justifications, et quand vous regardez dans cette loi, il n'y a strictement rien
non.
qui va pousser à la réindustrialisation ou à la relocalisation d'activités de production textile en France. Il faudrait prendre d'autres mesures qui ne sont pas dans cette loi.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit. Jules Méline, on peut mettre son portrait à la cave, il est partout, il est toujours dans les esprits. On ne se débarrasse pas de Jules Méline. C'est dramatique, pathétique.
Sans voir derrière qu'il y a même un modèle très intéressant dans ce que fait Chine, un modèle industriel, un modèle de créativité, un modèle de réactivité. Alors ça n'intéresse absolument personne. On passe son temps à parler de customisation, de mieux servir le consommateur. Dans ce que fait Chine, avec toute une série de démarches contestables, il y a même un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes, notamment en termes de créativité. Alors vous allez me dire, la créativité, c'est pas ça. Bon, on peut en parler. Et ça voilà, on s'intéresse au toyotisme, on s'intéresse au fordisme, mais on s'intéresse pas au chiisme, enfin en tout cas pas à celui-ci.
Le chinisme. Vous vouliez dire un mot là-dessus ou je passe sur la conjoncture, Laurent?
Je vais ajouter ma petite touche.
Ajoutez votre touche. Hein.
Je me dis que c'est dommage qu'on puisse pas mettre un prix.
Laurent, il achète pas ses costumes sur Chine.
Ah oui, alors moi, je suis dans la slow fashion puisque moi, ce que je porte a été porté avant-guerre. Et en plus, c'est des costumes français, donc vous voyez, je peux attester de la durabilité et de la durée de vie dans le temps. Donc évidemment, moi, la fast fashion, ça ne me parle pas. Mais bon, ça, c'est
moi
une autre histoire.
Très franchement, moi non plus.
Mais je me dis que c'est dommage qu'on puisse pas mettre un prix sur nos lois et pouvoir les vendre aux autres. Parce que alors là, on rétablirait la balance commerciale de la France de manière absolument exponentielle. Alors, je, encore une fois, je veux dire, ce genre de choses, il ne faut pas croire que c'est anodin. Je veux dire que alors ça répond à des impératifs du moment qui sont tout à fait louables, mais dont la mise en œuvre... Mais c'est juste une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tout le monde va se gratter la tête pour dire, alors qu'est-ce que c'est finalement qu'un truc fast fashion? Donc on va mettre 15 fonctionnaires, voire plus. Vous mettez 15 fonctionnaires, vous avez 50 avis. Après, vous allez arriver à des décrets d'application auxquels personne ne comprendra rien. Il faudra en ramener 150 pour qu'on les traduise. Et puis après, on va en ramener 500 pour contrôler. Et donc, encore une fois,
il y a ceux qui doivent donner le sort pour faire la fermeture
éclair. C'est pour ça que cette loi est symptomatique. Je veux dire qu'on parle d'un sujet qui est préoccupant, qui est complètement absurde, et vous l'avez dit vous-même. Mais je veux dire, moi, je ne crois pas, si vous voulez, au pouvoir de la loi sur ces sujets un peu philosophiques. Et je pense qu'il faut effectivement éduquer le consommateur, parce que s'il y a des vêtements pas chers produits à l'autre bout du monde dans des conditions détestables, et qui alimentent aussi les décharges, c'est qu'il y a des gens qui les achètent.
Je suis d'accord.
Et donc, on ne peut pas à chaque fois légiférer sur tout.
Comme me disait quelqu'un, bah oui, mais il y a des gens, ils sont bien contents de pouvoir trouver des vêtements si bon marché. Et donc, oui, ils sont là, ils achètent. L'INSEE. Donc, que nous dit l'INSEE? Stagnation au premier trimestre, là où on attendait 0,2. Sans doute 0,3, si tout va bien, au deuxième trimestre de croissance. Donc 0,5 d'acquis de croissance fin juin. Ce qui veut dire que si on veut 1% comme l'a prévu Bercy en 2024, il faut faire 0,7 au troisième trimestre, 0,7 au quatrième trimestre. Autant dire que c'est chaud. Et l'élément qui fait espérer l'INSEE pour la deuxième moitié de l'année, eh bien, ce serait que le pouvoir d'achat s'améliore, grâce notamment aux hausses de salaire à la désinflation, de manière à ce que la consommation tire l'activité, même si c'est pas traditionnellement la consommation qui doit être considérée comme le vrai moteur de l'activité, mais beaucoup plus l'investissement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la vision macro, Laurent Vronsky, et vous me disiez en arrivant, oui, mais moi, je qui suis dans le micro...
Dans les tranchées.
C'est pas comme ça que je vois exactement les choses en ce moment.
Alors,
parce que là, au niveau offre, justement, production-industrie, le tableau est assez sombre de la part de l'INSEE.
Alors, je vais citer mes sources.
Allez-y. Hein,
comme il est de coutume, donc mes sources, c'est en clair mon activité propre, mon réseau de sous-traitants, mon réseau de clients et les chefs d'entreprise que je rencontre toutes les semaines au titre de ma casquette syndicale en tant que secrétaire général de Croissance Plus. Bon. Donc je n'ai pas sorti la mesure statistique, etc. Mais je pense qu'une fois de plus, on a des chiffres qui sont des chiffres macro, vous l'avez expliqué, c'est-à-dire c'est une moyenne. Bon, mais derrière, il y a énormément de contrastes. C'est-à-dire, c'est un peu comme un microscope. Vous voyez, je veux dire que si vous prenez du champ, vous n'allez pas voir l'état de surface, vous pensez qu'il est lisse. Mais si vous vous rapprochez, vous allez voir qu'il y a des crevasses et il y a des pics. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'économie est beaucoup plus contrastée qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'en clair, ce qu'on retient, c'est deux choses. Vous avez des secteurs qui sont sinistrés. Le secteur sinistré par excellence est tout ce qui touche de près ou de loin l'immobilier, le bâtiment, toute la chaîne de valeur. Donc là, je crois que j'apprends rien à personne. C'est une évidence. Mais après, au niveau industriel, moi, je peux vous dire qu'au niveau de nos sous-traitants qui sont sur le continent européen, 99% de nos sous-traitants ont des carnets de commandes qui sont pleins à 6 mois. Et donc, aujourd'hui, on gère des problèmes de capacité. Exactement ce que gère l'aéronautique. Et moi, je n'ai rien à voir avec l'aéronautique. Tous les gens qui ont un savoir-faire particulier n'ont aucun problème de conjoncture. Leur problème, c'est un, de trouver du personnel, et deux, de trouver de la capacité. Donc, je rencontre aussi beaucoup de mes camarades de Croissance Plus qui, globalement, ont fait une très bonne année 2023 et qui ont des perspectives très intéressantes avec un carnet de commandes. Ça, c'est du réel, hein, c'est du dur. C'est pas, je dirais, de la divagation. Ils ont un carnet de commandes en début d'année qui est un bon carnet de commandes, ce qui est notre cas à nous. Donc, je suis beaucoup moins optimiste et je trouve que l'INSEE présente un tableau qui est extrêmement...
Beaucoup moins pessimiste.
Pessimiste.
Oui. Justement, il suit, hein.
Étant comme le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté, c'est pour ça que, vous voyez, j'ai bien lapsus. Je pense que l'INSEE donne un tableau qui est très tristounet, vous voyez, qui est très anxiogène.
C'est pas génial, oui.
Et donc, il faut lire les chiffres derrière les chiffres. Et je pense que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est beaucoup plus contrasté qu'il n'y paraît. Et vous avez des secteurs aujourd'hui, mais qui cartonnent.
Oui, alors, je suis d'accord, Laurent. Mais quand on arrive, alors, certes des moyennes, mais quand on vous dit, ben voilà, stagnation au premier trimestre alors qu'on attendait 0,2, il y a peut-être des secteurs qui cartonnent, mais la situation globale de...
Quand vous avez un secteur qui est en forte croissance et un secteur qui est en forte chute, ben évidemment, ça s'annule.
Oui, mais je suis d'accord.
Et on n'a pas, si vous voulez, aujourd'hui une anémie générale de l'économie. Bon. C'était mon idée.
C'est bien, parce qu'effectivement, au niveau de l'industrie, c'est quand même, le tableau est assez sombre. Vous croyez que l'INSEE est trop pessimiste ? Jean-Marc Daniel, vous qui êtes administrateur de l'INSEE.
C'est absolument, oui.
Fonctionnaire et administrateur.
Il est partout, Jean-Marc.
Oui, administrateur de l'INSEE. Je rappelle que j'ai commencé ma carrière qu'ébranlé. C'est dire si je suis ancien, puisque même le site suivant est déjà fermé. C'est dire, on a fermé qu'ébranlé, puis ensuite on a fermé la porte de Vanves, et maintenant
il a été délocalisé.
Voilà, on n'arrête pas de délocaliser l'INSEE.
Il y a Shenzhen.
Mais non, de façon plus sérieuse, je pense que et je rejoins assez ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on regarde notamment un indicateur que je suis toujours, qui est le taux d'utilisation des capacités de production, ce taux d'utilisation est très faible, assez bas.
Il est en dessous de sa moyenne de long terme.
Moyenne. Et donc, il y a un peu de... La capacité de réponse des entreprises est assez importante et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est plus un problème de main-d'œuvre qu'un problème de demande et qu'un problème de capacité.
Absolument.
Physique. Et la deuxième chose dans ce que dit l'INSEE qui me paraît importante, c'est le fait que, donc la formule, je lis là aussi la phrase de l'INSEE, l'investissement subit l'effet du durcissement des conditions de financement.
Arro sur la BCE.
Et donc, arro sur la BCE. Enfin, on est quand même dans une phase où l'inversion de la courbe des taux s'est installée. On a des taux d'intérêt à court terme qui sont à 4,5%, et il n'y a aucun pays de la zone euro où les taux d'intérêt à 10 ans soient supérieurs à 4%. Le taux d'intérêt le plus élevé, c'est en Italie, à 3,70%. Et donc, ça dure, et l'INSEE dit dans parmi les... Donc maintenant, l'INSEE, par rapport à l'époque du quai Branly, l'INSEE met aléas sur la prévision, et dans les aléas sur la prévision, elle met en avant le fait que il y a une incertitude sur la poursuite de cette politique monétaire, et je pense que la réponse de politique économique à la situation dans laquelle... C'est la baisse des taux. C'est-à-dire que l'inflation, si tant est qu'il y a eu de l'inflation, a disparu. On a le dernier chiffre du mois de février qui vient de confirmer
un
ça.
Un peu de la hausse.
Oui, enfin bon. Et puis alors avec des arguments sur le thème, mais vous savez, sur le marché des matières premières. Alors vous avez des notes qui vous expliquent que le prix du cacao explose. Mais enfin, le cacao, ça fait pas l'essentiel de la vie des gens. Hein. C'est pas le prix du cacao qui détermine le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Donc je pense que effectivement, le vrai problème, c'est un problème de réponse en termes de politique économique à la situation. Ça ne peut pas être la politique budgétaire parce que effectivement, le déficit est dans des proportions proportions, qui sont des proportions assez vite insoutenables. Donc ça ne peut être que la politique monétaire. Oui. Et je ne comprends pas cette obstination qui a consisté à rentrer trop tard par rapport à l'analyse.
Et probablement
à sortir trop tard par rapport à la réalité de l'évolution des
prix. Votre camarade François Villeroy de Gallo était sur BFM Business cette semaine. Il a dit « nous baisserons les taux ». Au printemps, en précisant que le printemps était une saison.
Parce et voilà,
certains
il fallait
se disent, ah ben ça y est, c'est en avril. Non, non, c'est au printemps.
Donc oui, la alors, saison. Il est soumis au fait qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent que faut pas confondre vitesse et précipitation, mais je crois qu'on est dans la nécessité de la vitesse.
Bon, la baisse des taux, la BCE, voilà, c'est en fait, l'inflation aurait décéléré, c'est votre certitude, même si on n'avait pas monté les taux.
Oui, oui, je pense que effectivement, ce qui était bon, c'était de sortir de la zone des taux négatifs,
oui,
de cette zone qui était absurde, mais maintenant, on est au-delà de l'objectif que l'on devait se donner.
On marque une pause. On se retrouve dans un instant. Bon, réaction de Jean-Marc, peut-être sur les chiffres de l'INSEE, Jean-Marc Vittori, et puis je vous demanderai de réagir à la décision du Conseil. C'est quand même extraordinaire. Hein. L'Europe 2003 décide qu'on a des droits à des congés payés quand on est en arrêt maladie. La mesure entre en vigueur en 2009. Le Conseil constitutionnel dit non, non, c'est bon, nous, on a bon, tant pis, c'est pas la peine de changer notre code du travail. La Cour de cassation dit mais si, il faut absolument mettre le code du travail en conformité avec l'Europe. Le Conseil d'État a dit mais oui, il faut mettre le code du travail en conformité avec l'Europe. Et donc, l'avis rendu hier sera traduit en amendement dans un texte de loi présenté lundi à l'Assemblée nationale pour modifier le code du travail afin de le mettre en conformité avec le droit européen. A tout de suite.
Est-ce la bonne décision quelque chose ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP qui a publié « Redécouvrir les physiocrates » chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de mars. Comment relancer, ressusciter la productivité ? Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Gilles m'écrit, toujours marrant de voir des gens, il parle de nous, hein, qui collectionnent les berlutis et qui jugent les achats faits par des pauvres juste pour se vêtir. Il y a également cette réaction sur les costumes de Laurent. Avec des costumes comme ça, vous pourriez jouer dans les tontons flingueurs, m'écrit-on.
Je prends ça pour un compliment.
Voilà. Alors, il y a Ibrahim qui écrit, voilà enfin un secteur qui ne connaît pas le problème de productivité, c'est la législation française.
Productivité, si. Production, non, mais productivité.
Oui. En tout cas, créativité.
C'est une question pour vous, Jean-Marc. Jean-Marc Daniel, c'est Pascalou qui dit, il dit que les taux d'utilisation des capacités baissent, mais qu'il faut baisser les taux pour investir. N'est-ce pas contradictoire, demande cet auditeur.
Non, parce que il y a des effets qui sont des effets d'accélération sur l'investissement, c'est-à-dire que les investissements nourrissent les investissements. Et donc, effectivement, il y a des secteurs qui ne sont pas appelés à investir parce que leur taux d'utilisation des capacités de production ne sont pas au rendez-vous. Mais il y a des investissements de productivité ne seront pas là, mais il y a les investissements d'innovation qui, eux, doivent être favorisés.
Jean-Marc Vittori, votre lecture de la livraison INSEE d'hier. Qu'est-ce que vous en tirez? Moi, j'en tire comme enseignement que les 10 milliards, ça va pas suffire cette année et qu'effectivement, la baisse des taux, ça y urge un peu.
Non, le premier point, c'est ce que disait Laurent. Et d'ailleurs, il y a deux pages dans la note de conjoncture de l'INSEE qui sont consacrées à ça. C'est l'extraordinaire diversité des situations d'un secteur à l'autre. Et c'est le cas depuis 2020, hein, depuis le confinement, qui a tué les services et boosté la demande dans certains secteurs industriels. Ensuite, il s'est passé l'inverse. Aujourd'hui, on a une diversité des situations conjoncturelles d'un secteur à l'autre, comme on n'en a jamais eu historiquement. Et ça complique la lecture. C'est vrai que la construction entraîne toute une partie de l'économie vers le bas en ce moment. C'est vrai aussi qu'il y a des capacités de rebond qui sont encore énormes. L'aéronautique, hein, rappelait l'INSEE dans sa note, n'est pas encore revenu au niveau pré-crise. Et donc ça tire parce qu'il y a une demande très forte. Les carnets de commandes là sont pleins, non pas pour 6 mois ou 1 an, mais pour 10 ans. Et donc le but, c'est d'arriver à produire le plus vite possible et donc d'améliorer la capacité. Là, il n'y a pas le moindre doute.
électrique.
Tu as besoin de capacité.
Et, voilà. Et dans le bâtiment, on a la situation exactement inverse. Donc, ça complique la lecture d'ensemble. Voilà. Mais ceci, et moi, je suis de plus en plus prudent face aux lectures d'ensemble depuis 4 ans à cause de cette diversité.
Face aux lectures d'ensemble.
Voilà. Oui, non. Ceci dit, le deuxième point, c'est que tout de même, la reprise, c'est le titre de la note, la reprise se fait attendre. Et on voit bien qu'on est en train de repousser vers les trimestres suivants la reprise qui devait se passer dès le premier trimestre. Maintenant, ils nous disent que c'est le deuxième trimestre. Je pense que la prochaine fois, ils expliqueront que finalement, peut-être à l'été, une fois que la BCE aura peut-être commencé à baisser ses taux, ça repartira. Mais on est tout de même dans une situation de marasme de la production qui est depuis 18 mois sur une pente de 1%. J'avais regardé, ça n'est jamais arrivé depuis qu'on a des chiffres trimestriels. Ça n'est jamais, donc depuis l'après-guerre, ça n'est jamais arrivé qu'on ait 18 mois à 1% plus ou moins epsilon. Et donc ça traduit même une économie qui est particulièrement peu dynamique. Et effectivement, les espoirs de recettes budgétaires qui pourraient éviter des plans d'économie s'éloignent. Le deuxième point essentiel, c'est vraiment ça. Très grande diversité et une situation qui est même pas joyeuse, même si dans certains secteurs, ça explose, comme le dit Laurent.
C'est une décision du Conseil d'État, Laurent Vronsky, qui est venu valider un avis du Conseil d'État, qui est venu valider un arrêt de la Cour de cassation, qui, cet arrêt lui-même, avait invalidé une décision du Conseil constitutionnel. Il s'agit de mettre le Code du travail en conformité avec la directive européenne de 2003, une charte européenne des droits fondamentaux qui est ensuite entrée en vigueur en 2009 et qui prévoit que l'on accorde des congés payés à un salarié qui est en arrêt pour une raison de maladie non professionnelle. Donc la décision d'hier indique qu'effectivement, maintenant, qu'on soit présent ou pas présent, on cumule des droits au congé payé, qu'au maximum, les périodes de maladie permettront d'obtenir 4 semaines par an et non pas 5, car c'est la durée courante en Europe, que cette décision est rétroactive, mais que la rétroactivité est limitée. Elle est limitée à 3 ans pour un salarié qui a quitté l'entreprise, si il a quitté cette entreprise moins de 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la mesure, et elle est limitée, cette rétroactivité, à 2 ans si le salarié est toujours en poste. Et enfin, les salariés ont jusqu'à 15 mois pour prendre ces arriérés de congés payés. Bon, visiblement, la sphère patronale est soulagée, Laurent Vronsky. Vous connaissez le sujet. Comment vous accueillez cette décision du Conseil d'État ?
Oui, je connais le sujet parce que d'abord c'est un sujet qui n'est pas nouveau, vous l'avez souligné, je veux dire qu'on l'a pas découvert en 2023. Par contre, il y a eu des rebondissements juridiques. Alors, il faut être conscient que c'est pas non plus un sujet nouveau parce que vous avez, comme chacun sait, des conventions collectives en France et que vous avez des conventions collectives qui déjà accordent des congés payés à des salariés qui sont en congé maladie, non professionnel. Je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau. Par contre, vous avez des conventions collectives qui ne les donnent pas. Bon. Et donc, c'est pour ces entreprises-là où, quand on a, je dirais, de la transposition de textes européens, puisque c'est ce dont il s'agit, avec des incertitudes très importantes, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce qu'on peut, en clair, toquer à la porte de son ex-entreprise pour réclamer des congés payés. Est-ce que c'est depuis un an, depuis 15 ans? Je veux dire que vous imaginez, pour beaucoup d'entreprises, c'est non seulement, je dirais, un cauchemar administratif qui se prépare, mais également une note extrêmement salée. À un moment où, clairement, on ne peut pas dire que l'économie, au sens général, soit très florissante. On vient d'en parler pendant un quart d'heure. Donc, cette espèce d'incertitude juridico-économique...
Elle est levée, l'incertitude.
Voilà, elle est levée. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises qui appartiennent à des secteurs où, justement, il n'y avait pas de congés payés octroyés quand on était en congé maladie, je veux dire, font ouf parce que maintenant, c'est borné. Et c'est relativement bien borné parce que ça va éviter d'importer du conflit dans les entreprises avec des gens qui vont venir, qui étaient là il y a 10 ans et qui vont commencer, on va ressortir les feuilles de paye, et c'était calqué comme ci et comme ça. Enfin, c'est le cauchemar. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens font ouf. Ouais.
Donc, effectivement, le risque de rétroactivité, c'était 14 ans. Et là, il a été limité à 3 ans, même 2 ans, si on est encore en poste. Donc, oui, c'est plutôt...
Donc, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une mise en conformité avec le droit européen. Après, on est pour ou contre le droit européen, mais réaction là-dessus, sur le congé payé.
Non, juste sur la forme, c'est le nombre d'instances qui s'en sont mêlées dans cette...
C'est un parcours, juridique et complexe, oui.
Et je trouve assez surprenant que les gens ne voient pas quand même l'instance de référence, c'est la Cour de cassation dans cette affaire. C'est la justice, c'est là qu'est le nœud. Et donc,
c'est d'ailleurs là que ça s'est dénoué.
Exactement, c'est là que ça s'est dénoué. dénouer. Et je pense qu'à une des questions qu'on doit se poser sur ce genre de situation, c'est effectivement, Laurent le dit, bon, mais ça va être clair parce que maintenant, il va y avoir une loi, il va y avoir un texte. Je pense quand même qu'il y a toute une organisation juridique qui fait que la clarté vient aussi de la jurisprudence et de la façon dont les juges décident. Et je crois qu'on a un problème en France qui est de ne pas véritablement comprendre le rôle de la jurisprudence, le rôle de la justice judiciaire, le rôle de... Dans cette affaire, le Conseil d'État ne juge pas. Hein, le Conseil d'État
oui.
n'est pas en, dans sa formation juge, non. mais dans sa formation conseil. Hein.
Voilà. Et donc, c'est une espèce d'étape entre la Cour de Casse et le texte examiné lundi.
Voilà. Et donc, quand la Cour de Cassation dit quelque chose, je suis toujours très gêné que l'on dise bon, mais maintenant il va falloir faire un texte de loi. La Cour de cassation a dit quelque chose. En fait, c'est... la jurisprudence, c'est aussi quelque chose qui nourrit le droit.
Ben oui, mais enfin, sur le plan institutionnel, vous devez modifier les codes travail mais... pour le. Voilà.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tradition en France pour. Je ne vais pas éterniser le débat là-dessus, mais c'est tout le débat entre la common law oui. et la civil law. Mmh. Je pense que en France, on est très attaché à la civil law et il y a quand même des domaines et des sujets où introduire de la common law, de la justice, de l'arbitrage, c'est quelque chose qui est plus positif que ce que nous racontent nos juristes.
C'est votre côté anglais, ça.
Oui, tout à fait. Je pense que des forces de l'Angleterre, c'est aussi la common law.
Jean-Marc Vittori, j'ai mis ce sujet, mais il a retenu votre attention. Les cadres considèrent que le télétravail, c'est un acquis. Moi, c'est un baromètre APEC qui m'a impressionné, parce qu'un sur deux dit, moi, je suis prêt à démissionner si le travail à distance est supprimé dans mon entreprise. C'est un nouveau monde, hein.
C'est un nouveau monde. Premièrement, c'est du déclaratif, hein.
Oui.
Voilà. Donc, moi, je me méfie toujours un peu du déclaratif, hein. Vous avez plein de déclaratifs qui, si ça coûte 10% plus cher et que c'est plus propre, est-ce que vous achetez? Et à 90% des
oui,
gens
oui.
disent oui. Et il y a 10% des gens qui le font effectivement. Donc,
c'est comme j'adore les documentaires sur Arte, mais c'était un truc qui cartonne.
Voilà, exactement. Donc, bon, c'est du déclaratif. Derrière, bah, on le sait bien, dans les entreprises, il y a eu. Avec les confinements, une vraie bascule sur cette question du télétravail qui était impossible et qui est devenue soudain du jour au lendemain, hein, en 24 heures obligatoire.
Ouais.
Il y a une grande banque qui a la défense, qui avait expliqué que ses traders ne pouvaient pas, pour des raisons réglementaires, travailler hors du floor de la banque. Et le 17 mars, tous les traders étaient chez eux sur leur ordinateur. Voilà, donc on a même eu des choses qui ont changé et cette réaction montre bien ça. Ça montre aussi que au sein des entreprises, c'est un nouveau champ de discussion qui est ouvert et qui n'est pas toujours facile à régler entre certains salariés qui peuvent télétravailler et la direction qui sait qu'il y a d'autres salariés qui ne peuvent pas télétravailler.
Ah oui, ça...
Et donc, il y a un point d'équilibre à trouver. Je pense que ça va être une difficulté pas facile à résoudre. Et le sondage montre qu'il y a un fort attachement au télétravail, même si quand vous... Voilà, vous avez des oreilles dans un certain nombre d'entreprises. Vous voyez bien que les choses ont ça a changé très fort en 2020. Et puis, depuis quelques mois, on entend une petite musique qui est beaucoup moins favorable au télétravail, y compris de la part des salariés qui se disent « Si je suis en télétravail, je risque d'échapper aux augmentations. »
Oui, je ne vais pas être là au bon moment. Il faut les absents ont toujours tort, comme on dit.
Voilà.
Ouais, je vous rappelle l'histoire de SAP, qui est extraordinaire. Ils étaient 5-5 en télétravail. Mm. On leur a dit « Non, c'est fini, maintenant, vous revenez minimum de jours par semaine, pétition de 1500 salariés menaçant une démission collective. C'est un truc de dingue. Ça vous faisait réagir le cadre, l'acquis télétravail pour les cadres?
Oui, alors quand on dit l'acquis télétravail, encore une fois, et je veux dire, Jean-Marc fait bien de le souligner, c'est du déclaratif.
Oui, oui, on est d'accord. J'attends de voir s'ils vont vraiment démissionner.
Alors, la petite musique sur le télétravail, je pense que c'est plutôt une symphonie philharmonique. Hein. Et là, maintenant, si vous voulez, ça souligne bien les effets de mode qu'il peut y avoir dans le management, et vous l'avez très bien expliqué, je veux dire qu'on a été obligé de tous passer en télétravail. Je veux dire, c'était pas laissé à la libre appréciation des entreprises. Et ça, c'est plutôt globalement pas mal fait. Simplement, on a expliqué, je parle des managers, que c'était une mesure d'urgence face à une situation d'urgence et qu'il ne fallait en aucun cas, puisqu'on parle de fashion, avoir un costume à taille unique pour tout le monde. Bon, et fabriquer un compresseur dans un salon, ça présente quelques challenges.
Là, vous parlez de votre business.
Voilà, là, je parle de mon usine. Bon, donc maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que, je dirais, une fois de plus, je veux dire qu'on épouse le terrain. Vous avez des postes, par exemple, qui sont purement documentaires, si je puis dire, où vous pouvez avoir plus de télétravail. Enfin, je crois que je n'apprends rien à personne.
C'est assez cohérent.
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des discussions, je pense, relativement intelligentes dans les entreprises, et je pense que là, il y a une vraie différence entre les petites boîtes, les PME et les grosses boîtes. Parce qu'évidemment, au niveau des PME, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours, où, en clair, je dirais, On a toujours pratiqué ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait un petit problème de famille ou autre, alors ça ne s'appelait pas le télétravail, mais il restait chez lui et il gérait le problème. Le problème intervient quand on essaye, une fois de plus, de légiférer, de mettre de la couche juridique, d'avoir un costume à taille unique pour tout le monde, et c'est là que les problèmes commencent.
On n'a pas légiféré sur le télétravail en France.
Heureusement. Voilà, C'est pour ça que quand on parle de la PEC, encore une fois, c'est une prise de température
barométrique. Oui, c'est une température.
Mais on a également, vous parliez des augmentations de salaire, il y a les entreprises américaines qui ont été les chantres du télétravail ont été les premières à faire marche arrière et à obliger les gens à revenir.
Oui, absolument.
Et certaines ont même dit, attention, si vous faites trop de télétravail, vous n'aurez pas d'avancement et pas d'augmentation de salaire. Bon, je crois que c'est assez clair. Hein.
Non, moi
Jean-Marc Daniel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces gens.
Avec quels gens qui quoi?
Qui considèrent que c'est un acquis et c'est plus qu'un acquis. Je pense que c'est l'annonce, les prémices de la fin du salariat.
Ah, mais ça c'est votre grand.
Et donc je pense qu'on est en train de passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Et ça, ce sondage confirme ça. C'est du déclaratif. Je suis d'accord avec Jean-Marc. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus de gens qui considèrent que c'est un acquis. Bon. Je pense que sur le terrain, concrètement, quand on leur demanda de revenir et d'abandonner la liberté qu'ils ont acquise, ils réagiront de façon vigoureuse.
Je suis pas totalement. Enfin, on a eu ce débat mille fois sur la fin du salariat. Il y a une évolution tout à fait notable, mais alors, je pense que le salariat restera très largement dominant pendant
Des compresseurs, il y a des chaînes de production industrielle qui réclameront une présence physique en des lieux déterminés, mais pas forcément d'ailleurs dans le cadre salarial actuel. Mais je pense qu'il y a énormément d'emplois qui vont disparaître des logiques salariales pour entrer dans la logique client-fournisseur.
Laurent Bosquet.
Alors, moi, je vais répondre à ça en tant que manager. Parce que, effectivement, les propos de Jean-Marc, c'est pas du tout une attaque, sont très théoriques et se tiennent. Je vais vous rappeler que le premier confinement, tout le monde est parti, va-t-en-guerre, un petit peu comme en 1914. Hein, tout le monde est parti, c'est formidable, on va avoir du temps pour nous, on va être chez nous, etc. Et puis, le deuxième confinement, on nous a demandé de gérer les risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient en télétravail et qui étaient trop souvent chez eux, ils commençaient à déprimer. Et moi, j'ai dû gérer beaucoup de cas où il y a des gens qui m'ont clairement expliqué, qui m'ont dit « Bon, moi, j'aime bien le télétravail une journée par semaine parce que c'est plus facile pour moi, mais globalement, pas trop, parce que sinon, je suis complètement déconnecté de l'entreprise et j'ai une coupure sociale. » Et ça, c'est pas bon.
Donc, non mais le télétravail, c'est pas le confinement.
Non.
Vous prenez un exemple extrême. Les 55 jours de confinement, c'était pas télétravail, le maître mot.
Vous avez dit, quand on va retirer à ces gens-là la liberté, ça va pas bien se passer.
Oui.
Non, je pense qu'une fois de plus, la vie est faite de nuances de grises, et que, je dirais, quand ça se fait de manière intelligente et, je dirais, pas systématique, ça se passe bien. Le problème, c'est quand on veut avoir un costume à taille unique. Et moi, je ne crois pas du tout que ça va être la société client-fournisseur. Je n'y crois pas, mais écoutez, dans 30 ans, puisque vous serez encore président, si j'ai bien compris, on en discutera.
C'est l'économie politique.
Voilà.
Oui, c'est...
Enfin, elle existera encore, je ne sais pas si je serai président.
Mais si.
Je crains qu'elle soit encore présente, qu'elle existe encore.
On va faire de Jean-Marc Daniel un perpétuel. je suis persuadé que si j'avais un expert très pointu, il me donnerait toutes les bonnes raisons qui ont poussé le Parlement européen à valider quelque chose qui m'échappe. On décide qu'un élevage de porc... Pourquoi pas les bovins, d'ailleurs? Je sais pas. Élevage de porc et de volaille, vous êtes une industrie. Vous êtes... Petite ferme familiale, il y a des porcs ou de la volaille, vous êtes maintenant dans la classe industrie. Ça veut dire qu'on vous sort l'ensemble des normes réservées aux industriels que vous n'aviez pas à respecter, que vous allez devoir respecter maintenant et ça va coûter de l'argent. J'ai mis ça, ça vous a fait réagir, Laurent Wronski, parce que je vois dans ce genre de décision exactement les décisions qui font qu'on déteste les Européens. Enfin, qu'on déteste Bruxelles, plutôt.
Alors, je vais vous dire, c'est clairement un sujet qui m'a mis d'extrêmement mauvaise humeur. Je trouve que c'est, si vous voulez, vous vous dites, mais c'est pas possible, ils ont pas compris ce qui s'est passé depuis 2 mois. De pondre des trucs pareils, je veux dire, là, on parle agriculture, mais c'est valable dans tous les secteurs. Donc là, on a des gens qui apparemment sont hors sol, qui vont nous sortir des trucs, qui vont être d'une difficulté herculéenne à mettre en place.
Non, mais ça coûte de l'argent en plus.
Qui vont en plus, si vous voulez, il va y avoir un coût de la casse sociale économique, c'est une évidence. Et en plus, et je trouve que c'est beaucoup plus grave, c'est que ça renforce, si vous voulez, ce sentiment anti-Europe. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de fédérer et de vendre l'Europe, si je puis dire, et de donner un sentiment de ralliement et de trouver des choses intelligentes qui nous rendent tous plus forts, non, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu? On a quand même eu, il y a quelques semaines encore, je veux dire, les tracteurs qui étaient un peu partout en Europe. Et là, on nous sort un truc pareil.
Donc, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire que si la bêtise n'est pas remboursée par la Sécu, il y en a qui vont finir sur la paille. Et là, c'est l'histoire des agriculteurs. Mais moi, je me dis, mais alors, la semaine prochaine, il y en a un qui va nous sortir des normes sur les compresseurs et sur l'air comprimé. Je veux dire, on est dans un climat général, macroéconomique, au niveau du libre-échange, où on a des concurrents redoutables, je veux dire, qui ne font que monter en gamme, monter en puissance de semaine en semaine en semaine en semaine. Et tout ce qu'on trouve, c'est nous sortir des trucs pareils.
Tu dois être avis, mais ça vous inspire une réaction, non? Non, comment, vous, comment vous voulez apprécier Bruxelles quand vous voyez ce genre de...
Bah voilà. Moi, je pense que c'est plus un affrontement entre une certaine forme d'écologisme que j'appelle les pagano-gauchistes et le reste de la société. Et Bruxelles, effectivement, soutient plutôt une vision assez intellectuelle de l'écologie, oui, enfin, qui se rapproche des pagano-gauchistes. Mais je pense que c'est pas contre Bruxelles en tant que telle. Quand vous regardez les dernières élections, que ce soit au Portugal, que ce soit aux Pays-Bas, ces élections, les gens qui ont fait une percée n'ont pas attaqué directement Bruxelles. Ils attaquaient l'idéologie écologiste. Et je pense que nous allons vers un clivage politique qui sera autour de la façon dont se comportent certains mouvements d'écologie et qui décrédibilise la cause qu'ils mettent en avant et qu'ils défendent. Mmh. Et on parle des agriculteurs, la révolte des agriculteurs, si tant est qu'on puisse parler de révolte, enfin le mouvement de colère des agriculteurs, il y avait toute une partie qui était effectivement sur les prix, la rémunération, mais l'essentiel c'était effectivement contre une certaine vision de l'écologie et contre le fait que les gens qui s'adressaient à eux avaient un contact purement, alors là aussi intellectuel et théorique à la nature, alors que eux, la nature, ils la vivaient.
Ah bah ils sont dedans, ouais.
Et je pense qu'il y a un problème de... C'est ce que nous disait aussi Marcus Kerber l'autre jour sur ce plateau, quand il disait que le problème...
Il a désingué les écologistes. Il considère que le problème de l'Allemagne, c'est les écologistes.
C'est les écologistes. Et quand on
il
regarde...
explique tout par l'école.
Quand on regarde le programme de l'AFD qui a commencé, l'AFD, ça a commencé par être contre l'euro. Puis ensuite, ça a été contre l'immigration. Et maintenant, typiquement, Marcus Kerber reportait plus ou moins ça dans ses propos. Ils sont contre les écologistes. Et donc, je crois qu'il y a un vrai problème politique, oui, qui est la capacité d'un certain nombre de mouvements à faire passer leur message et à éviter de décrédibiliser ce message.
C'était le jour où on passe les 72 000 dollars et vous écrivez Bitcoin, Dingo ou Bingo en débutant la chronique dans les pages Opinion des Échos. Point d'interrogation. Alors, dans quel camp êtes-vous, Jean-Marc Vittori?
Moi, je ne suis pas dans un camp pour cette histoire. Je regarde, j'observe, j'essaie de comprendre. Et c'est un peu compliqué. Le Bitcoin, donc, c'est une crypto-monnaie ou un crypto-actif qui a été créé juste après la faillite de Lehman Brothers, la panique financière et l'ouverture 2009. En grand des robinets financiers par les banques centrales. Et donc, je me suis demandé, premièrement, à quoi ça servait. Ça a été présenté au départ comme un outil de transaction. Hein. Quand vous regardez le texte fondateur du Bitcoin, qui a été publié, je crois, le 30 octobre 2008, c'est présenté comme un système de transaction. Et on voit bien que cette dimension-là, ça ne marche pas. Vous n'allez pas acheter la baguette avec une fraction de Bitcoin, parce que c'est trop compliqué, le système est lourd, il est complexe, il n'est pas rapide, contrairement à ce que racontent certains. Et donc, cette dimension transaction, ça ne marche pas. Une monnaie, ça sert d'instrument de transaction, ça sert aussi d'étalon, de mesure de la valeur. C'est ce que nous disent tous les théoriens de la monnaie.
Trois fonctions de la monnaie, il y a
Est-ce qu'on mesure la valeur avec le Bitcoin? La réponse est clairement non. Il est beaucoup trop volatile pour ça. S'il était au cœur du système, à ce moment-là, il pourrait servir d'étalon. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il ne sert absolument pas d'étalon.
À la base du dollar qui permet de fixer la valeur du pétrole, par exemple. Voilà.
Et puis l'euro, même le yuan, mais on ne fixe pas la valeur du pétrole, d'autres matières premières, on ne les négocie pas en bitcoin parce que c'est trop compliqué.
Donc échange, non. Voilà. Mesure,
étalon,
non.
Et donc la troisième fonction d'une monnaie, c'est la réserve. Ouais. Et là, on voit bien que le bitcoin sert à ça. Clairement, il devient une classe d'actifs, entre guillemets. Alors ensuite, quand on regarde les actifs, la plupart des actifs, ils rapportent quelque chose. Hein, les actions, ça rapporte des dividendes, sans parler de la promesse de plus-value. Les obligations, ça rapporte des intérêts. D'ailleurs, une obligation, c'est l'obligation de verser un taux d'intérêt. Le bitcoin, ça rapporte rien. Alors vous allez me dire, il y a l'or qui rapporte quelque chose et qui est considéré comme une classe d'actifs.
Avec un rendement,
qui rapporte rien, l'or.
Il rapporte rien, mais il a une utilité. d'une utilité. On s'en sert. Voilà, il y a des gens qui ont des dents en or. Il y a des plein de puces qui ont des contacteurs en or. Sur le dôme des Invalides, c'est recouvert en or parce que ça présente certaines qualités esthétiques et aussi de protection que n'ont pas les autres métaux. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, l'or a des vertus physiques. Bon, on peut pas se faire une dent en Bitcoin. On peut pas recouvrir le dôme des Invalides en Bitcoin. Donc, il ne sert à rien hormis dans la finance elle-même, hein, il peut servir à faire des transactions, notamment l'usage le plus souvent cité, c'est de faire des transactions entre pays, hein, notamment pour les remittances, les envois des immigrés à leur famille dans leur pays d'origine sont taxés par les institutions financières qui s'en occupent à 4 ou 5%. C'est régulièrement dénoncé, y compris dans les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Là, ça permet de le faire sans frais, sans frais prélevés par une institution financière. Donc, c'est une désintermédiation de la monnaie. Bon, mais c'est même des niches à chaque fois. Donc, pourquoi est-ce que le Bitcoin vaut ou a valu 72 000 dollars ? Et je pense qu'il y a même quelque chose derrière. Le Bitcoin est une monnaie qui est totalement décentralisée, contrairement aux monnaies qui sont devenues de plus décentralisées au fil des siècles, hein, en particulier depuis 3 siècles. Il n'y a pas d'institution publique derrière, contrairement aux autres monnaies. Et je pense que l'une des raisons, peut-être la raison pour laquelle le Bitcoin vaut si cher, c'est... Alors bon, il y a évidemment de la spéculation, il y a des gens qui se racontent que ça va monter. Il y a tous les signes habituels là-dessus. Mais je pense aussi que derrière, il y a le fait de se dire, dans le reste du système, ça va pas. Ces dettes qui sont de plus en plus colossales, qui sont financées par de la monnaie, à un moment, cette monnaie, elle va ne plus rien valoir.
Perte de confiance dans les monnaies traditionnelles.
Et donc, je m'interroge depuis des années, hein, face à ces politiques très, très particulières que mènent les banques centrales, hein, depuis 15 ans, c'est quelle forme pourrait avoir une fuite devant la monnaie au 21e siècle ? Fuite de la monnaie, c'est on ne veut plus de la monnaie.
Oui, bien sûr. Hein, on a du mal à imaginer une
fuite. On veut de l'or, on veut de l'argent, on veut des objets, on ne veut plus de monnaie.
Je pense
que le Bitcoin, c'est un signe parmi d'autres, mais un signe de la fuite devant la monnaie.
C'est un élément un peu, dans la philosophie de départ, un peu libertarienne qu'on retrouve dans ce que vous dites là. Est-ce qu'un jour on fuira devant le dollar et l'euro?
Je pense que le Bitcoin, c'est un clignotant.
Oui, Laurent, on a 1 minute 20.
Alors, je trouve que c'est une lecture intéressante, celle de Jean-Marc. Par contre, il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est une convention. Si on est tous d'accord que des coquillages qu'on va s'échanger, qu'on va garder, nous permettent d'échanger contre d'autres biens, ça devient une monnaie. Donc, est-ce qu'il faut voir là le signe de défiance des monnaies actuelles qui sont backées par les États ? Je ne sais pas. Par contre, évidemment, même ces monnaies-là, on ne peut pas prendre son bout de papier d'euro et puis l'échanger comme à une époque contre de l'or ou quelque chose de dur. C'est une convention générale. Et donc, par rapport à la question que vous posez, si demain il y a une défiance par rapport à la monnaie, c'est le retour du troc, qui est la plus vieille forme d'échange commercial. Et on va échanger des biens physiques contre des biens physiques. Je pense qu'effectivement, c'est le risque que l'on court avec, je dirais, des déficits excessifs et tout ce dont on débat depuis un petit moment.
Pour les compresseurs, ça va pas être facile, hein, d'échanger un compresseur.
On a fini.
On va échanger les compresseurs.
Juste Jean-Marc, oui, un mot.
Je partage tout à fait l'analyse de Jean-Marc. Je rajouterai 2 choses. La première, c'est que je pense que la faillite des banques centrales, c'est d'afficher la destruction progressive de la monnaie en disant, n'entre pas à fond, notre objectif, c'est 2% d'inflation. 2% d'inflation, c'est la destruction de la monnaie. De dire, on a besoin de seulement c'est un plafond, mais c'est une nécessité. Il faut détruire la monnaie pour faire vivre l'économie.
C'est un super débat, mais j'ai fini là.
Hein, oui, ça me paraît absurde. Et la deuxième remarque que je ferai, dans l'arbitrage entre défiance de la monnaie et spéculation, je pense qu'on est surtout dans la spéculation.
Il me fait le débat pour savoir si un peu d'inflation est bonne pour l'économie, alors qu'il nous reste 15 secondes. Moi j'adore. Hein.
Je ne sais pas si c'est bon pour l'économie et tout ça. Je dis que des gens qui sont là pour préserver la monnaie affichent qu'ils vont la détruire.
La productivité, comment fait-on ? C'est la une de Pour l'écho du mois de mars. Merci Jean-Marc Daniel, Jean-Marc Vittori, Laurent Vronsky. Rendez-vous lundi 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.